Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les vacances de Noël sont passées, ils n'ont toujours pas repris le chemin de l'école. Ce sont les 40 000 élèves qui ne sont pas scolarisés en France. Étrange phénomène, diront certains, réalité d'un autre âge même pour d'autres. Vrai choix pourtant pour ces parents qui font le choix donc de faire eux-mêmes l'école. Des enfants, des adolescents et des parents dont nous avons choisi de parler ce matin pour essayer de comprendre leur motivation et de voir les avantages et les inconvénients de ce type de choix. Alors, pour parler de l'école à la maison avec ce titre tout simple ce matin, pourquoi, comment ? Ce matin, je reçois alors beaucoup de mères de famille, heureusement qu'elles aient répondu à l'appel. Béatrice Rimaud, donc vous êtes mère de 6 enfants. Je disais en préparant l'émission que vous ne travaillez pas, mais vous me dites si, je suis chef d'entreprise. Nathalie Jousselin, vous avez 7 enfants. Anne-Laurence Le Garçonneur, vous en avez 3. Et Marie Vaugier, vous n'êtes pas là au titre de maman, même si j'ai cru comprendre que vous l'étiez. Vous faites partie des cours Legendre. Et en ligne, nous avons Florence Bouvet, qui est cofondatrice des cours Sainte-Anne. Voilà, je vous dis à tous bonjour, mesdames, et bonjour Florence Bouvet.
Bonjour.
Alors, au début de cette émission, le propos, ça serait d'essayer d'abord de faire un point sur la situation. Je disais qu'il y avait 40 000 enfants en France qui n'étaient pas scolarisés. Alors, j'ai vu des chiffres très différents. À certains endroits, j'ai vu qu'en fait, ils étaient 18 000. Après, j'ai vu même qu'ils étaient 3 000. Bon, toujours est-il que ça reste un chiffre assez faible au vu du nombre d'enfants scolarisés en France, puisque pour le coup, le nombre d'enfants scolarisés en France s'élève à peu près 15 millions. Voilà, donc c'est évidemment un tout petit pourcentage. Peut-être l'une ou l'autre peut commenter ou dire un mot de ces chiffres. Marie Vaugier, vous me disiez que vous, c'est 40 000 qu'il faut retenir et que de fait la France, c'est quand même un chiffre relativement élevé par rapport aux autres pays européens.
Oui, les procédures sont plus difficiles, notamment en Allemagne, en Suisse. Et à peu près le pourcentage, on dit c'est 0,3%. Enfin, c'est ça paraît pas grand-chose, mais je voulais juste spécifier qu'il y a une partie qui est scolarisée par les cours à distance, une autre partie qui a l'instruction à la maison où les enfants n'ont pas forcément de cours à distance. C'est les parents qui supervisent l'instruction des enfants.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est une distinction importante. Peut-être qu'on peut commencer par... avant de faire cette distinction, c'est-à-dire que ça recouvre beaucoup de réalités, en fait, les enfants qui ne sont pas scolarisés. Florence Bouvet, sur les chiffres, vous qui êtes donc cofondatrice des cours Sainte-Anne, alors on présentera un petit peu plus tard ce que sont les cours Sainte-Anne, mais est-ce que c'est les chiffres qu'il faut retenir et peut-être quelle explication vous avez, fort de votre expérience, au fait que ça reste très minoritaire en France ?
Oui, ça reste minoritaire. C'est pas dans la culture française, hein, qui est très fidèle à son école publique, qui a fonctionné très bien pendant de très nombreuses années. C'est vrai que moi, ça fait 20 ans que j'ai fondé ce cours avec Brigitte Maurice. Et nous avons vu évoluer les raisons pour lesquelles les parents choisissaient l'enseignement à distance. Et autant au début, ça pouvait être pour des raisons de déplacement, ils voulaient garder une certaine cohérence, une continuité dans l'enseignement de leurs enfants. Maintenant, nous avons, en ce qui concerne nos cours, une volonté avérée de trouver des programmes qui sont supérieurs à ce qu'ils trouvent dans les écoles autour de chez eux.
Alors peut-être
bonne qualité.
Voilà, peut-être on fera la pub du cours Sainte-Anne, mais un peu plus tard, si ça vous embête pas. Ma question c'était surtout.
Non.
Ma question c'était davantage sur les chiffres. Vous vous dites c'est 40 000. Est-ce que c'est en hausse ? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes par exemple ?
Oui, c'est difficile à savoir. Alors je confirme la distinction entre en effet l'enseignement pur à domicile, où là je crois qu'on parle en général du chiffre d'environ 3 000 élèves, où là en effet les parents font exactement ce qu'ils veulent. Pour l'enseignement à distance, c'est plus difficile parce qu'il y a les cours privés et puis il y a le CNED.
D'accord.
Et on ne maîtrise pas vraiment les chiffres, alors 40 000 ne paraît pas totalement aberrant. C'est peut-être ça, je ne peux pas
D'accord. Confirmer. En tout cas, c'est 3 000 de mamans, comme il y en a autour de cette table, qui eux, font elles-mêmes l'école à la maison, même parfois pendant plusieurs années, c'est ça ?
Oui, avec leur choix, oui.
D'accord. En tout cas, c'est un chiffre qui est à la hausse. C'est-à-dire, vous, est-ce que, je ne sais pas, vous avez multiplié par 5, par 10 vos demandes
En 20 ans, nous avons multiplié les chiffres par 10.
D'accord. Alors peut-être est-ce qu'on peut faire un point aussi sur la législation, c'est-à-dire qu'en préparant cette émission, je regardais un petit peu ce qui était permis. Alors vous me disiez, c'est vous, non c'est pas Laurence Le Garçonneur, voilà que je m'y perds, c'est Nathalie Jousselin, vous me disiez qu'en France, l'instruction est obligatoire, mais pas la scolarisation, alors peut-être vous pourrez réagir. En tout cas, c'est très encadré, c'est-à-dire qu'on peut pas du jour au lendemain décider de garder ses enfants à la maison. Si c'est le cas, vous n'avez pas forcément la police qui débarque chez vous, mais pas loin. Et même en fait le fait de ne pas déclarer d'instruction, comment dire qu'une famille ne déclare pas l'instruction de ses enfants, c'est même passible de prison, de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Alors Nathalie Jousselin, vous comment vous y êtes pris pour ne pas avoir la police qui débarque chez vous?
Alors on n'a pas la police évidemment, mais alors il faut faire la distinction en fait entre instruction et la scolarisation, en fait. On est obligé d'instruire nos enfants entre 6 et 16 ans, mais on n'est pas obligé de les scolariser. Donc, en fait, en choisissant un cours agréé par l'éducation nationale, on instruit nos enfants. Et donc, dans ce cas-là, on est dans la loi. Ce qui n'empêche qu'on a quand même l'inspecteur qui passe à la maison et l'assistante sociale qui passe tous les 2 ans.
Béatrice Rimaud, vous, c'est pareil, vous n'avez pas eu la police qui est débarquée chez vous, mais en tout cas, c'est surveillé. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Alors moi j'ai eu la DAS qui est venue à la maison quand j'ai gardé les enfants maternels, parce que comme là je n'étais pas inscrite à un cours par correspondance, et du coup ils sont venus surveiller si je maltraitais pas mes enfants au niveau de l'hygiène, regarder un peu la maison. Donc, c'est toujours un peu impressionnant quand même.
Donc il y a aussi des visites régulières de d'une inspection, et vous avez une visite d'une assistante sociale aussi, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Alors, faut pas que ça fasse peur aux parents qui aimeraient faire la classe à la maison, parce que si on n'a rien à se reprocher, ils n'ont rien à trouver. Et quand on suit un cours par correspondance, on a des bulletins de notes, on a des devoirs, donc il n'y a rien à se reprocher. Et quand l'assistante sociale, quand elle voit que les enfants, ça se passe bien à la maison, ça se passe même très bien, elles sont même très contentes de venir, ça leur change de la vie normale.
D'accord, en tout cas, l'État est prudent, Béatrice Rimaud.
Et d'ailleurs, la personne de la DAS qui est venue à la maison, elle a passé le pas de la porte et on a pris un fou rire toutes les deux.
D'accord.
Donc en fait, elles sont très sympas.
Alors, maintenant, sur les raisons, qu'est-ce qui fait que les mamans que vous êtes, les mères de famille que vous êtes, ont décidé un jour de scolariser, enfin de ne pas scolariser, mais d'instruire elles-mêmes leurs enfants à domicile? Je me tourne vers vous, Anne-Laurence Le Garçonneur. Alors peut-être que vous pouvez nous situer, vous avez 3 enfants. Vous me disiez qu'il y en a une, en fait, avec laquelle vous avez fait ça, qui était simplement la dernière.
La dernière.
Et pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi pour la dernière?
Parce que j'avais pu comparer avec l'enseignement qu'avaient eu mes autres enfants dans un cours hors contrat dans la région parisienne. Donc j'avais gardé tous les cahiers. Et quand j'ai vu, à partir du CE1, le décalage qu'il pouvait y avoir entre l'enseignement de ces cours hors contrat et l'enseignement qu'on proposait à ma fille, je dois dire que chaque année, j'étais de plus en plus décontenancée. Donc on a fini par faire ce choix.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis qui vous reviendraient en tête ou qui montrent ce décalage?
Ce décalage, et ben, par exemple, en CM1, au mois de février, on n'est que à l'imparfait de l'indicatif en tant que révision. Je dois dire que bon, ça passait pas, alors qu'au cours Sainte-Anne, on a déjà fait tous les temps, tous les modes. Il y a un moment où on se dit non, ça suffit.
Donc pour vous, la raison, c'est tout simplement que vous trouviez que l'instruction était pas... Enfin, le niveau était pas assez
suffisant.
Bon.
C'était au niveau intellectuel, au niveau spirituel et puis même au niveau du comportement. Quoi. L'enfant, on voit bien qu'il y a un mimétisme qui se crée. Et je reconnaissais pas tout le temps ma fille.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça, que...
Bon, au niveau de la consommation qu'il peut y avoir dans les cours de récréation, à tous ces niveaux-là, du vocabulaire. Au niveau, il faut avoir le sac, il faut avoir la bague, il faut avoir tout ça. Donc, c'était pas le but de l'éducation, enfin ce que je recherchais.
D'accord. Alors vous, on fait un petit tour de table. Hein. Nathalie Jousselin, vous, qu'est-ce qui fait? Alors vous, donc vous en avez, rappelez-moi, 7. Donc vous me disiez qu'il y en a 4. À qui vous avez fait l'école jusqu'au CM2, vous en avez encore 2, un qui est au CE1 et l'autre qui est en moyenne section, et vous en avez un même qui est en 6e et qui est scolarisé à la maison. Alors pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'en fait, notre aînée était en cours dans le public, en CP, et en fait, elle s'est ennuyée pendant tout son CP, et au mois de novembre, on a demandé à l'instituteur qu'elle passe en CE1 pour pas qu'elle s'ennuie, et il nous a dit non, vous comprenez, etc. Donc en fait, il fallait faire quelque chose. Donc quand elle est rentrée en CE1, il y avait aucune école qui pouvait nous l'apprendre en CE1. Donc on a dit, bon, bah, faut qu'on fasse autrement. Donc on a découvert les cours Sainte-Anne. Et là, une fois qu'on a goûté aux cours Sainte-Anne, c'est dur de recommencer dans l'instruction autre que le cours Sainte-Anne.
Vous avez eu du mal à vous y mettre? Je sais pas, vous aviez des scrupules à le faire?
Alors non, aucun scrupule, parce que non, même pas, parce qu'en fait, quand je voyais ma fille qui était une petite fille qui était très soignée, elle avait ses cahiers, c'était des vrais brouillons. Donc non, aucun scrupule, parce que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour elle. Donc on s'y est mis, et voilà. Et après, j'ai continuer avec les autres, parce que quand j'ai vu le niveau et les méthodes, je me suis dit que ça pouvait pas être autrement.
Béatrice Rimaud, vous, alors on resitue, donc vous en avez 6, vous l'avez fait pour tous vos enfants, mais un par un, si j'ai bien compris, ce que vous aviez raconté dans une précédente émission, il me semble, voilà, chacun pendant un an. Alors vous, c'est pareil, même question, pourquoi tout d'un coup, qu'est-ce qui vous a pris?
Eh bien, parce qu'à un moment donné, j'ai pensé que faire l'école à la maison, c'était le mieux pour eux. Alors ça rejoint un peu ce que dit Madame Bouvet. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, c'était plus pour une cohérence de vie au niveau du rythme familial, pas rentrer dans un... Pour la maternelle, je trouve qu'en fait, j'avais envie de leur donner un apprentissage rythmé à leur âge, voilà, pas forcément s'adapter au rythme de l'enfant.
Alors si je me souviens bien, en fait, dans une précédente émission, vous aviez expliqué qu'en fait vous en aviez marre. D'ailleurs, c'est ce qui ressort souvent quand en parcourant des articles, en préparant l'émission, je voyais, c'est les gens, il y a comme ça une femme qui disait un jour il y a eu un dépêchez-vous de trop. C'est-à-dire que j'ai accompagné mes enfants tous les matins, c'était la course, je leur disais dépêchez-vous, 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 et puis un jour j'en ai eu marre de dire dépêchez-vous, je me suis dit il faut que je trouve une solution. Vous, c'était un petit peu ça, c'est-à-dire que vous disiez que les devoirs du soir, ça devenait l'enfer. Et
donc, c'est exactement ça.
Vous avez voulu trouver une soupape?
Ben oui, parce qu'en fait, on se colle à un rythme obligatoire donné par l'école, et puis le rythme familial en pâtit. Donc finalement, essayer de recaler le rythme familial approprié à chaque enfant, donc pas forcément l'élever à 7 heures, et notamment lever à 7 heures celui qui ne va pas à l'école. Donc finalement, le fait de rester à la maison, d'adapter son rythme à chacun, c'est libérateur.
Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être davantage, avant qu'on fasse une première pause, c'est-à-dire en quoi le fait qu'il y en ait un qui n'aille pas à l'école, en fait, ça donne plus de souplesse pour toute la vie de famille, enfin pour ceux qui n'ont pas autant d'enfants que vous?
Non, mais parce que
on essaie de comprendre de l'intérieur.
Mon aîné, du coup, le fait de ne pas le mettre à l'école, ça m'oblige. Je pouvais laisser les autres dormir plus tard et adapter le rythme de chacun. Adapté à chacun, alors que sinon on cale le rythme de toute la famille sur un enfant qu'on doit vite aller emmener à l'école, donc on les habite tous, on les emmène, on va les rechercher pour le déjeuner, tandis que là le rythme est vraiment
plus libre.
Particulier.
J'entends
à la
petite
famille.
Voix qui dit plus libre. Alors voilà. On fait une première pause et puis on va continuer à creuser cette réalité étrange pour beaucoup.
Le soleil, la terre se fend pour cet homme et pour son enfant. Après le puits qu'il faut creuser, il reste un sillon à tracer. Sans attendre, apprendre à lire, à écrire, à compter. Ouvrir les portes encore fermées sur ce savoir accumulé. On lui en donne un jour la clé, il a le monde à sa portée. Lire, apprendre à lire entre les lignes, découvrir la magie des signes et les trésors inépuisables qu'on emporte dans son cartable. Comprendre, c'est comme un mur que l'on traverse. C'est la brume qui se disperse, une promesse encore plus belle, la connaissance universelle. Compter, apprendre à compter sur soi-même, à compter pour ceux qui vous aiment, pour faire aussi partie du nombre, pouvoir enfin sortir de l'ombre. Comprendre. Combien la vie peut être belle, et se mettre à compter pour elle, faire la somme de sa différence, se soustraire à l'ignorance. Écrire, apprendre à écrire son histoire, à la plume et au crayon noir, en appliquant son écriture, raconter sa propre aventure. Surprendre, cueillir ses mots comme des fleurs, semer des graines au long des cœurs, confier son âme et sa mémoire à celui qui viendra plus tard. Pour cet enfant à son pupitre, tirer la langue sur le titre, écrire son nom sur son cahier, c'est plonger vers sa liberté.
Voilà, ce matin nous parlons de l'école à la maison avec ces deux questions toutes simples, pourquoi, comment. Je vous rappelle que nous sommes avec Béatrice Rimaud, mère de famille, Nathalie Jousselin, la même chose, Anne-Laurence Le Garçonneur, la même chose, et Marie Vaugier, vous êtes donc vous enseignante et vous travaillez pour les cours Legendre, et Florence Bouvet, vous êtes cofondatrice des cours Sainte-Anne au téléphone, voilà, depuis Paris si je ne me trompe pas. Hein. Voilà. Alors maintenant, peut-être avant de parler de la méthode, savoir comment ça se passe, la méthode, comment vous y prenez et quelle importance peut avoir pour vous l'instruction religieuse aussi dans ce choix, vous vouliez, Marie Vaugier, et à raison, en fait, faire une petite correction, un petit point. On l'a vu au début quand on a cité les chiffres, la très grande majorité des gens qui font le choix de l'école à la maison, c'est donc par le CNED, et c'est souvent pour des motifs, on va dire, très particuliers, soit un enfant qui a des très gros problèmes, je sais pas, phobie scolaire, ou alors un enfant qui a, qui se lance à fond dans le sport ou dans des études artistiques. Alors, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, grosso modo, la majorité des cas, vous, que vous croisez au cours Legendre, à quoi ils ressemblent ?
Alors, on a beaucoup de précoces, qui n'arrivent pas à s'adapter au rythme de la classe, qui ont besoin d'un suivi individuel. On a beaucoup d'élèves en échec, qui parfois c'est une précocité qu'on n'a pas détectée. Donc nous, on accompagne pour essayer de trouver les bons intervenants médicaux, notamment pour qu'on puisse évaluer tout ça. Et puis, on a effectivement les sportifs, on a des parents qui se déplacent beaucoup, qui vont à l'étranger, qui veulent que leurs enfants soient suivis, et quand ils reviennent en France, bah, ils leur donnent des cours un petit peu pour qu'il y ait la partie vivante du professeur, si je puis dire, puisqu'ils sont en cours particulier à distance. Et puis aussi les phobies scolaires. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de phobies scolaires d'enfants qui ont subi des harcèlements, qui ont complètement lâché l'école, parce que c'est anxiogène pour eux, ils ne peuvent pas y retourner. On essaye de les amener à y retourner. Ou alors ils restent à la maison et on les accompagne pendant des années.
D'accord. Alors, du coup, quand on est contraint par la situation ou quand on fait le choix, comme vous autour de cette table, voilà, il n'y a pas 36 méthodes. Alors vous allez peut-être me dire, mais donc il y a le CNED, il peut y avoir les cours Legendre, il peut y avoir les cours Sainte-Anne. Alors on m'a dit que Legendre, c'est un peu le CNED privé. Est-ce que de fait, il y a ce panel-là, ou est-ce que j'en oublie, Marie Vaugier ? Alors évidemment, vous n'allez peut-être pas faire de la pub pour les autres, mais...
Non, c'est-à-dire que, par exemple, le CNED, bah, on voit des cours, il y a des corrections, les cours Legendre ont ce principe, des cours aussi, mais moi, par exemple, je n'interviens pas dans le cadre des cours à distance, moi, j'interviens vraiment dans le cadre du suivi des cours de l'enfant, qui peut être confronté à des cours à distance, et qui a du mal tout seul, qui a besoin du professeur pour l'encourager, pour lui expliquer ce qui ne va pas, vraiment la présence vivante du professeur.
D'accord.
Voilà.
Alors, Florence Bouvet, est-ce que vous pouvez nous présenter les cours Sainte-Anne ? Donc, on choisit ces trois mamans autour de cette table, si je ne me trompe pas. Comment c'est né et peut-être quelle est la particularité de ces cours ?
Écoutez, nous, on a fondé donc ce cours il y a une vingtaine d'années, donc pour répondre à une demande des familles, en fait. C'était pas du tout une démarche commerciale. C'était vraiment pour répondre à une demande. Et donc ça s'est développé, je dirais, très vite, parce qu'on ciblait des programmes avec des méthodes traditionnelles et au contenu soutenu, assez riche, en tout cas qui marque une différence avérée avec les programmes officiels. Nous sommes dans l'enseignement libre, hein, dans les établissements à distance, c'est l'enseignement libre. à part le CNED. C'est important de le souligner aussi, parce que nos programmes sont aussi utilisés dans des établissements scolaires qui dispensent nos programmes.
Donc, c'est-à-dire utilisés quoi? Par des écoles hors contrat ou...
Des établissements hors contrat qui se créent avec le soutien de nos programmes. Ils dispensent nos programmes. On a une cinquantaine d'écoles au cours de ces 20 années qui dispensent ces cours. Donc toujours dans l'enseignement libre.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être la caractéristique, c'est-à-dire vu de loin, on se dit les cours Sainte-Anne, c'est quoi? C'est l'école à l'ancienne, c'est le tableau noir, la craie, la méthode syllabique?
Je n'aime pas trop ce terme parce qu'il y a toujours une petite connotation péjorative dans le vocabulaire actuel. Disons que nous avons des méthodes dites traditionnelles, hein, qui s'approchent du programme des années 60, 60-70, où on fait une chose après l'autre, A, puis B, puis C. C'est extrêmement structuré et c'est vraiment ce qui plaît à nos familles, puisque nous, on avait fait une enquête donc en début d'année 2014 et à 53%, les familles sont chez nous à cause du niveau local, de l'école locale qu'ils jugent insuffisant. Je reviens également sur le petit point dont vous parliez avant. C'est également l'expatriation et les situations particulières de l'enfant dont parlait Mme Veugier tout à l'heure, je le confirme. Nous répondons, grâce à ces programmes très, très souples et très structurés, nous arrivons finalement à nous adapter à beaucoup de profils d'enfants, que ce soit des EIP, des 10.
Alors attendez, juste expliquez-nous les sigles, parce que pour ceux qui ne sont pas initiés.
Excusez-moi, EIP, c'est les enfants intellectuellement précoces.
D'accord.
Vous parliez de phobie scolaire, c'est exact, mais en fait. C'est vrai que beaucoup de ces enfants qui sont précoces ne trouvent pas leur place dans le système. Il n'y a pas de réponse. Donc les parents sont souvent obligés d'aller au charbon. C'est pas facile, pas facile à gérer. Ces enfants présentent aussi souvent des troubles 10, hein, ce qu'on appelle les 10, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie, dyslexie, enfin, Il y a l'embarras du choix. Et puis les troubles de l'apprentissage autres qui existent. Et en fait, ce sont ces populations qui viennent chez nous parce qu'ils ont des programmes structurés et surtout, nous pouvons adapter, vraiment, on s'adapte au profil de l'enfant et à la demande de la famille. Et on prend vraiment en compte les paramètres particuliers de chacun parce que finalement, chaque enfant est différent, il y a autant de profils qu'il y a d'enfants.
D'accord. Donc il y a à peu près 3000 familles qui ont recours au cours Sainte-Anne. Vous y avez une cinquantaine d'écoles qui vous font confiance. En tout cas, c'est ce que vous dites sur votre site. Marie Vaugier, je sais pas, vous, les cours Legendre, c'est quelle différence peut-être avec les cours Sainte-Anne?
On n'est pas dans la comparaison. Nous, on est en fait dans le système et pas dans le système, puisqu'on essaie de rendre un service à toutes les familles. Donc, une grande partie de nos familles, ce sont des enfants qui sont à l'école, quelque chose de très habituel, des cours de français, de maths. On essaie de les aider.
Est-ce qu'il y a une différence dans les méthodes? Je ne sais pas.
Non, c'est les mêmes. C'est vraiment l'écoute. Madame a dit quelque chose de très juste, de prendre en compte des paramètres que la situation de classe ne permet pas trop d'élèves. Une grande difficulté pour les enseignants de faire face à tout. Il faut quand même se rendre compte que l'école est quand même en crise, c'est très compliqué. Et on essaye de tenir compte de l'enfant, des familles, essayer de comprendre où on peut aider. Et les parents nous choisissent aussi pour la proximité. Moi, ce que j'entends très bien, c'est le côté local. Vous êtes là, mon enfant, j'ai quelqu'un qui l'aide. Et les parents se sentent moins seuls. Il y a des parents, d'ailleurs, dont les enfants sont, comme disaient les dames qui sont avec moi à la maison, et qui viennent faire un entraînement pour voir comment ça sera à l'examen. Voilà, nous sommes là un petit peu pour aider. Rendre un service.
Alors après, racontez-nous dans la pratique et peut-être comment vous utilisez ces méthodes. Alors d'abord, la pratique, Nathalie Jousselin, je vous posais la question avant de préparer cette émission, comment vous faites vous transformez votre salon tous les matins en salle de classe, il y a un tableau noir derrière le tableau de famille, vous avez fait une cour de récré dans votre jardin, enfin comment on s'y prend tout simplement? Vous faites sonner la cloche le matin?
Alors je fais pas sonner la cloche, mais les enfants ils savent qu'il faut se mettre au travail. Mais le secret c'est d'avoir une salle de classe. C'est pas transformer son salon, c'est vraiment avoir une pièce où ils ont leur bureau et c'est là où on vient à l'école en fait. Et les enfants savent très bien, c'est la salle de classe, on va en classe. On petit déjeune et après c'est la classe. Donc et le tableau noir, il faut en avoir un, mais un vrai. Pas derrière le tableau de la famille. Il faut vraiment avoir un petit endroit consacré pour qu'une fois qu'on rentre dans la classe, c'est comme si on était à l'école, à la vraie école. Et donc on a ses cahiers, ses fascicules et et on y va.
Alors tout de suite, avant qu'on aille plus loin, vient une question, c'est qu'on se dit, de prime abord, on se dit, bah très bien, une salle de classe, il faut pouvoir. Quand on a un appartement en ville, quand on n'a pas beaucoup d'espace, déjà c'est rédhibitoire, c'est-à-dire que je peux pas faire l'école à la maison. Alors est-ce que l'une ou l'autre, je sais pas, Florence Bouvet, Marie Vaugier ou vous autour de la table, vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que c'est. Alors quand on y est contraint, on va dire, j'imagine qu'on se débrouille, on essaie de faire une salle de classe à la maison, mais est-ce que ça on peut dire que c'est un luxe de faire l'école à la maison, Florence Bouvet?
C'est pareil, il y a mille profils. Hein. C'est vrai que souvent les familles qui viennent à l'enseignement à distance, c'est souvent parce qu'ils y sont obligés. C'est les gens qui veulent vraiment faire un choix. En général, ils prennent l'enseignement totalement à la maison, en instruction à domicile. Je ne sais pas comment répondre parce que je vous dis, il y a tellement de paramètres que moi je refuse de rentrer dans des classifications. Je ne sais pas comment vous dire.
Nathalie
Jousselin. En fait, il faut pas forcément une pièce où c'est dédié à ça. Il faut un petit endroit. En fait, chaque enfant d'école a son bureau pour étudier le soir. Donc, en fait, il faut se dire, ben voilà, les bureaux, ils restent à leur place. Ben, un petit coin dans le salon, ou un petit coin dans la lingerie, ou un petit coin. Mais il faut un petit coin, quoi. Le petit coin du bureau qui doit être dans la chambre, ben, faut le mettre ailleurs ou dans la chambre, mais on n'est pas à déménager tous les matins et tous les soirs.
D'accord. Alors, Béatrice... Florence Bouvet.
Il faut un minimum de discipline. Ça, c'est absolument indispensable. Il faut que la maman ait l'autorité suffisante. Ça, c'est impératif. Et il faut surtout être très régulier, tout simplement. Donc, avec des horaires dits d'école, comme vous disiez tout à l'heure.
Alors, Béatrice Rimaud, une fois qu'on a posé le cadre comme ça, comment on s'y prend? C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, la maman donc donne l'instruction, mais c'est pas elle, par exemple, qui note. On envoie les copies au cours Sainte-Anne et en fait il y a un suivi. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en pratique justement comment ça se passe?
Alors c'est la grande aide justement, c'est que la maman n'est pas obligatoirement autoritaire par rapport à l'enfant puisqu'elle n'est que la répétitrice. Et ça, enfin moi personnellement c'est ce qui m'a sauvée. L'enfant ne travaille pas pour sa maman, il travaille pour les notes de la correctrice à qui on envoie les copies. Donc au cours Sainte-Anne ou ailleurs, au cours Legendre aussi. Et du coup, je trouve qu'il s'instaure au niveau autorité, c'est vraiment, c'est pas du tout conflictuel. En tout cas, moi, ça ne l'a jamais été. Et l'enfant a beaucoup de joie à travailler et on l'accompagne, on l'encourage. Donc ça, c'est la grande, grande facilité du cours à la maison. Et on n'est pas du tout dans le même rôle conflictuel que lorsqu'on les récupère le soir, où il faut les faire travailler, ils sont épuisés... Donc là,
qu'est-ce que ça change, juste pour bien comprendre? Parce que le soir, c'est pareil, vous leur mettez pas les notes le soir.
Oui, mais le soir, ils sont fatigués, nous aussi. Et puis en plus...
La journée derrière, c'est pas facile.
Voilà, et puis on rajoute encore. En plus, on n'a pas les tenants et aboutissants de la méthode. Enfin voilà, on ne comprend pas forcément tout. Et je pense qu'à la fois au niveau autorité, c'est beaucoup plus facile de faire l'école à la maison. Et à la fois au niveau intellectuel, c'est beaucoup plus facile aussi. Et de nombreuses mamans m'ont dit, mais moi je pourrais pas. Et en fait, si c'est plus facile de faire l'école à la maison, paradoxalement, que de les faire travailler le soir.
Alors juste pourquoi? Parce que du coup, vous connaissez les méthodes,
oui.
Ça. Donc vous êtes plongé en fait dans la réalité de.
Et puis au cours Sainte-Anne, il y a une vraie logique de progression. Voilà, il y a vraiment le cours, les exercices d'application. C'est très cohérent, très très logique.
Est-ce que c'est une des difficultés? Est-ce que, enfin, ou à contrario, est-ce que c'est justement une des richesses? C'est-à-dire que là, vous avez l'impression de moins naviguer à vue, vous savez à peu près où vous allez, Nathalie Jousselin?
Ah oui, moi j'ai, en fait les enfants ont été scolarisés un an quand on est arrivé sur Toulouse et je trouvais ça, comme Béatrice, très compliqué de faire les devoirs le soir parce qu'en fait on ne sait pas les méthodes qu'utilisent les maîtresses et on a envie de faire un autre sauce parce qu'on croit que c'est mieux ou... Et du coup avec le cours, quand on fait tout de suite en fait, on explique aux enfants la règle d'orthographe, mais elle ne va pas être expliquée deux fois, donc c'est très, très enrichissant.
Alors, avant qu'on fasse une autre pause, je voulais vous demander, et la foi dans tout ça, c'est-à-dire que, alors, pour ces 3000 familles qui font le choix d'instruire à la maison, donc des gens qui ne sont pas concernés par les situations que vous décriviez, hein, Marie Vaugier, c'est-à-dire par des difficultés personnelles ou par des circonstances, je ne sais pas, voyage à l'étranger ou autre, voire même certains tours du monde, même si ça reste exceptionnel. Évidemment, mon petit doigt m'a dit que ça peut être aussi parfois un choix pour essayer d'avoir une instruction religieuse. Alors, est-ce que c'est le choix de l'une ou l'autre autour de cette table? Est-ce que ça a joué et pourquoi ça a joué, Anne-Laurence Le Garçonneur, par exemple?
Forcément, ça joue. Déjà, je pense que l'instruction religieuse pour nos enfants, ce qui est primordial, c'est que ça soit fait sur les genoux des mamans ou des papas, d'ailleurs. Donc, dans ce cas-là, l'enfant voit que le parent s'engage. Et c'est déjà la moitié de la partie qui est gagnée, quoi. Donc,
mais on avait dit, vos enfants pourraient être scolarisés et puis vous leur faites, vous leur donnez une instruction religieuse le soir.
Tout à fait. Oui, tout à fait, en dehors. Mais oui, c'est vrai que dans l'enseignement classique, on ne retrouvait pas notre sensibilité. Donc ça fait partie aussi du choix.
D'accord, l'une ou l'autre, je ne sais pas. Béatrice Rimaud, où est-ce que ça a joué et pourquoi ça a joué?
Alors en fait, moi, ça n'a pas joué dans mon choix de départ, mais après, je me suis rendu compte que c'était une force de montrer à mes enfants qu'on pouvait aussi s'arrêter dans la journée pour prier, qu'une fois par semaine, on allait à la messe ensemble. Voilà, c'était le quotidien de maman. Et qu'en fait, voilà, la foi, c'était une cohérence, c'était du quotidien, c'était pas plaqué. S'arrêter tous les matins, on démarrait jamais la classe sans avoir prié. Et puis encore une fois, prendre le temps de prier et pas de faire ça toujours au pas de course et ou pas le faire et se dire j'ai pas le temps. On commence par ça, ou on pose dans son emploi du temps un temps pour prier. Voilà, toujours cette cohérence.
Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Écarte de ta route les peurs et les doutes. Tu iras bien plus haut si tu fais ce qu'il faut. Écoute bien ton être, lui connaît le chemin. Il faut bien se connaître pour choisir son destin. Tout ce que tu dois faire, c'est ce que tu sais faire. Mais garde le cachet, ce dont tu as rêvé. Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Si tu suis ton destin, tu feras ton chemin. Écarte de ta route les peurs et les doutes. Tu iras bien plus haut si tu fais ce qu'il faut. Le monde est difficile, il voudra te broyer, faire de toi la victime de ta naïveté. Mais ne perds pas confiance, garde ton espérance et tu récolteras ce que tu as semé. Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Ton destin, tu feras ton chemin. Écarte de ta route les peurs et les doutes. Tu iras bien plus haut si tu fais ce qu'il faut. Tout ce qui est facile, laisse-le de côté. Regarde bien les signes que le ciel a semés. Garde bien tes racines pour aller au sommet. Mais ne sois pas tranquille, on n'arrive jamais. Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Si tu suis ton destin, tu feras ton chemin. Écarte de ta route les peurs et les doutes. Tu iras bien plus haut si tu fais ce qu'il faut. Mais un jour sur ta route, tu seras fatigué. Écrasé par le doute, tu voudras tout laisser. C'est alors qu'une étoile se mettra à briller. Elle ôtera son voile, ton heure est arrivée. Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Si tu suis ton destin, tu feras ton chemin. Écarte de ta route les peurs et les doutes. Tu iras bien plus haut si tu fais ce qu'il faut.
Radio Présence à Sévrac-le-Château, 102.3. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin nous parlons donc de l'école à la maison, avec ce titre « Pourquoi, comment ?». Je vous rappelle, on le disait au début de cette émission, l'école à la maison, c'est à peu près 40 000 enfants qui ne sont pas scolarisés en France, et au milieu de ça, donc il y en aurait 3 000 pour qui ça serait vraiment enfin l'école à la maison comme on peut l'imaginer. Alors, dans cette troisième partie, je voulais avec vous, donc mesdames, essayer de voir quels étaient les avantages et les inconvénients, et peut-être essayer de se demander pourquoi ça reste marginal ou exceptionnel. Alors, commençons par les plus. Alors vous l'avez dit entre les lignes, mais peut-être pouvez-vous le dire davantage, et puis faites-vous l'écho de ce que vous ont dit vos enfants. Quel avantage vous y avez trouvé? Alors Béatrice Rimaud, si on a bien entendu vous, c'est que ça a recalé en fait un rythme familial complètement différent. Peut-être pouvez-vous nous redire, nous réexpliquer, et puis peut-être y ajouter d'autres avantages que vous y avez découverts.
Alors déjà, en effet, prendre le temps du coup pour les maternelles de manipuler. Je trouve que c'est hyper. Enfin, on a complètement oublié que l'apprentissage passait par la manipulation et le contact au réel.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour ceux qui
seraient pas familiers? Dans les classes en maternelle, ils sont quand même nombreux. Donc finalement, ils font beaucoup de fiches. Et moi, je suis enseignante aussi au départ. Et en fait, dans la formation, on nous dit faites des fiches. Et on a l'impression que toutes les connaissances doivent être évaluées sur le nombre de fiches qu'ils vont remplir. En maternelle, en réalité, je pense qu'étendre des petites chaussettes avec maman, faire les paires de chaussettes sur le fil à linge, éplucher des carottes très vite parce qu'on a besoin d'eux pour le quotidien. Ça a été une richesse énorme. Et je pense qu'ils apprennent plus et mieux.
D'accord, en passant par des choses pratiques, tout simplement.
Par le quotidien. Mais comme en fait, finalement, avec les horaires scolaires, on court tout le temps, on les lève vite et on les fait plus tellement manipuler.
D'accord. Quelle vertu ça a de manipuler comme ça? Je sais pas. Quelle vertu éducative? Ça aide à être, être dans le réel ou ça?
Et puis ils apprennent déjà à compter. Et puis tout ce qui. Alors moi j'ai beaucoup utilisé la méthode Jean Kiry pour l'apprentissage à la lecture. Et on a oublié que la lecture c'était déjà un rythme. Apprentissage d'un rythme. Si on lit, le chanter. Voilà. Tout ça en fait c'est des notions. Indispensable pour ensuite acquérir des connaissances. On va trop vite en fait. On va leur apprendre tout de suite à lire des lettres et en fait au départ ils n'auront pas manipulé et intégré ce que ça veut dire. Donc finalement on loupe des étapes en maternelle aujourd'hui, je pense.
D'accord. Alors les autres vertus que vous y voyez, vous avez dit que pour vous ça vous a permis en fait de vivre un peu votre vie de foi avec vos enfants et du coup de pas ricocher hein, puisque c'était pas votre première intention, peut-être que vous pouvez nous en dire davantage.
Et ben en fait aussi ce que je peux dire c'est que d'avoir pris mon enfant comme ça pendant un an à la maison, ça à chaque fois ça m'a fait découvrir mon enfant. J'ai découvert des qualités insoupçonnées chez eux. Et en fait parce que de s'arrêter avec lui, de travailler avec lui, ben en fait j'ai découvert des qualités énormes et je pense que d'avoir pris mon enfant un an à la maison à temps plein, ça m'a permis de le connaître comme je ne l'aurais jamais connu.
Nathalie Jousselin, alors vous les plus, alors vous avez l'air convaincue, donc je sens que ça va être dur de trouver des moins, mais en tout cas pour les plus, dites-nous.
Pour les plus, c'est comme dit Béatrice, c'est un vrai bonheur de voir ses enfants heureux d'apprendre. Heureux d'apprendre, de s'amuser avec les chiffres, avec les mots, même en CE1, je vois mon petit Louis qui est en CE1, il s'amuse avec les mots en CE1, donc ça c'est vraiment un bonheur. Et puis après, pour les grands, quand je vois...
Mais ça, on peut imaginer que certains sont contents d'apprendre à l'école.
D'apprendre,
aussi,
oui,
ça.
Apprendre à l'école. Mais en fait, avec la méthode Sainte-Anne, c'est tellement logique, tellement bien fait que ils apprennent des choses qu'en fin de CE1, ils connaissent tous les verbes, presque pas tous les modes, mais tous les des temps simples. Dans l'éducation nationale, ça y est pas, par exemple. Parce que mes enfants qui après au collège m'ont encore dit maman j'ai passé mon brevet décollage mais on n'a rien appris en grammaire et en conjugaison donc ça me désole un peu donc ça
Donc le premier point c'est que vous ils ont plaisir en fait
ils
à
ont
apprendre,
plaisir à apprendre voilà plaisir à apprendre plaisir à s'amuser avec les mots avec le boulier avec tous les supports, en fait. Et puis de voir ces enfants, quand ils rentrent au collège, de les voir bien dans leur basket et de savoir réfléchir par eux-mêmes, en fait. Réfléchir par eux-mêmes et d'exprimer leur choix sans papa et maman derrière et de savoir le faire, en fait. Parce que quand on a les bases, quand on sait faire une dissertation, quand on sait dire les choses.
D'accord. Anne-Laurence Le Carcener, sauf si vous avez d'autres points, Nathalie Jousselin, hein, mais Anne-Laurence Le Carcener, vous, quelle...
Moi, je dirais comme Béatrice, c'est un véritable bonheur de voir son enfant progresser. L'enfant aussi est très heureux de par déjà les résultats qu'il obtient. Je crois que j'aurais jamais découvert que...
Parce que souvent, les résultats sont meilleurs, justement, parce qu'on prend du temps avec lui, c'est ça
ou... Oui, et puis l'enfant est plus attaché à son travail presque, attend les résultats chaque semaine par la boîte aux lettres. Donc, il est heureux d'ouvrir l'enveloppe et d'y voir son travail. Après,
ça, moi, vous avez vu une différence entre vos enfants sur ce point-là ou...
Oui, c'était très net. Elle était beaucoup plus attirée par ce qu'elle faisait, alors qu'autrement, elle s'ennuyait. Elle rentrait souvent à la maison en disant « j'ai perdu ma journée. Aujourd'hui, je n'ai rien fait ». Donc, il y a ça. Et puis, il y avait aussi le fait que j'ai découvert qu'elle avait vraiment une fibre littéraire par la rédaction. Parce qu'au cours Sainte-Anne, vous avez une rédaction tous les 15 jours, et puis chaque semaine, des exercices liés à cette discipline. Et à l'école, il y avait quelques petits traits d'action, et encore, c'était plutôt des descriptions de photos. Alors que là, vraiment, elle a pris un plaisir à faire ses rédactions tous les 15 jours. Elle noircissait une copie double. J'ai été étonnée. J'ai découvert que ma fille était douée pour ça. Autrement, je serais passée à côté.
Alors maintenant, les aspects plus négatifs. Alors c'est vrai que quand on entend parler de l'école à la maison, la première chose qu'on se dit, c'est qu'on se dit c'est les mamans qui veulent materner leur gamin, ou alors on se dit c'est bon, pourquoi pas, mais enfin quid de la vie sociale. L'enfant est avec maman toute la journée, peut-être qu'il n'ose pas dire à sa mère qu'en fait il aimerait bien prendre son cartable et aller à l'école avec tout le monde pour retrouver les copains. Est-ce que c'est une vraie difficulté? Alors est-ce que même parfois vous avez laissé vos enfants avoir l'espace pour vous le dire, pour vous dire « Maman, en fait, j'aimerais bien aller à l'école. Moi aussi, j'aimerais avoir des copains, jouer dans la cour de récré. » Béatrice Rimaud, est-ce que c'est une des limites? Est-ce que vos enfants ont eu le droit de vous dire « Maman, je préférerais aller à l'école, jouer aux billes. » Et comment vous avez géré cette... qu'est-ce que vous répondez à cet a priori qu'on peut avoir sur le fait que ça risque de les désociabiliser?
Alors moi c'était particulier parce qu'on n'a fait qu'un an, donc le contrat était déjà annoncé d'avance, et puis à chaque fois c'est eux qui voulaient, donc c'était leur choix.
Tu disais « Maman, je veux que tu me fasses l'école à la maison ».
Mon fils de CM2, c'est lui qui m'a demandé, et ma fille de 4e aussi. Donc en fait c'était vraiment un choix de leur part, et ils savaient que ça se terminait en un an, et je crois qu'ils n'ont jamais eu envie d'arrêter, hein.
Et alors comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que comment vous faites pour faire en sorte que justement ils aient malgré tout une vie sociale?
Ben là, on a eu beaucoup de chance. Nous, on est dans un quartier où on a beaucoup d'amis. Donc, toutes les semaines, ils allaient déjeuner chez des amis. Et inversement, des amis venaient. Donc, deux jours par semaine, ils voyaient du monde.
Des amis dont les parents faisaient aussi l'école
non,
à la
non,
maison
non, ou... non, non, des enfants qui étaient scolarisés à côté et qui venaient déjeuner à la maison au lieu d'aller à la cantine.
D'accord.
Et en fait, et puis, l'école, ça se termine à 4 heures. Hein. Et puis, le mercredi après-midi, les week-ends. Donc, ils ont quand même encore beaucoup de temps. Et puis, finalement, d'être... plus seuls dans la journée pour travailler, ils apprennent aussi, ils ont une autonomie énorme. La grande peur au départ, c'est de se dire « mais je vais avoir mon enfant toute la journée, mais au secours ». Et finalement, on se rend compte qu'on l'a beaucoup moins dans les pattes qu'avant, parce qu'ils prennent une autonomie énorme. Et quand on lui dit « là, c'est 10 minutes de récré, il ne reste pas dans la classe ou dans la salle où on fait l'école », il déguerpit vite fait. Et en fait, je pense que la grande première qualité, c'est que ça leur fait, ça les fait grandir en liberté et en autonomie.
Nathalie Jousselin, sur l'aspect sociabilisation.
Alors moi je suis d'accord avec Béatrice, ils sont vraiment autonomes et libres les enfants, parce que voilà, ils sont quand c'est la récréation, c'est plutôt une demi-heure qu'un 10 minutes, ils viennent pas réclamer de faire la classe.
Mais dans la cour de récré, il y a personne d'autre.
Dans la cour de récré, nous ils ont de la chance, il y a toujours les frères et sœurs, donc ça c'est facile. Et puis après, des enfants instruits, c'est des enfants sociables, donc ça c'est pas compliqué. Et puis
qu'est-ce que vous voulez dire par là, qu'est-ce que ça veut dire des enfants instruits, c'est des enfants sociables?
Parce que comme ils savent s'exprimer, ils savent aller vers les autres. Moi je sais quand ils arrivent en 6e, souvent ils sont délégués de classe, alors que ils connaissent pas forcément leurs camarades, mais tout de suite ils ont fait leur leur promo, donc voilà, c'était très bien. Et puis après, on a la chance d'avoir du temps, donc de faire des activités extrascolaires plus sûrement que des enfants qui sont en classe à l'école. Donc voilà, et puis comme il y a besoin de 4 heures au maximum de classe, ils ont le temps de faire plein de choses, le temps de lire, le temps de jouer, le temps de bricoler, etc. Donc voilà, et puis pour voir les autres, il y a plein d'activités, voilà. Et puis la messe le dimanche, on voit toujours.
Alors l'autre chose, c'est que on peut se dire aussi que ça coûte cher. Est-ce que de fait c'est le cas? Je sais pas. Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire combien les cours Legendre, je sais pas combien ça coûte. Vous peut-être vous pouvez réagir aussi, Marie Vaugier, hein, sur les inconvénients. Les cours Legendre, je sais pas. Enfin, peut-être est-ce indiscret, mais est-ce que de fait de scolariser à domicile comme ça ces enfants, ça coûte cher aux parents?
Bien, en fait, on essaie de s'adapter quand même aux familles. Il y en a qui choisissent les cours à distance et puis qui prennent quelques interventions de professeurs, parce que c'est là que se trouve le coût malgré tout. D'autres préfèrent opter pour le CNED, où là il y a le tarif réglementé très souvent, et donc du coup les professeurs pareil interviennent. En fait, on essaye de se mettre à l'écoute des familles. Je pensais aux élèves, il y a des élèves malades notamment qui se plaignent de solitude. C'est tout à fait logique, il faut veiller à l'usage d'Internet, par exemple, qui peut être une tentation, remettre le dialogue, mais en définitive, il y a une telle adaptabilité, une telle présence, et puis c'est pas conflictuel avec les parents, enfin je veux dire, les enfants sont dans une sorte d'harmonie qui fait qu'ils font confiance, et ils recommencent à avoir des envies de réussir.
Mais ma question, c'était sur le prix.
Est-ce que ça coûte cher,
est-ce que ça coûte plus cher aux parents, en fait, de faire comme ça?
Pas plus cher, comme l'avait dit l'une d'entre nous, sur le fait de mettre un enfant dans une école privée. Mais il faut vraiment bien présenter sa situation et qu'on puisse harmoniser les choses. Et c'est ce que font en général les équipes pour faire en sorte que les enseignements aient lieu.
À Laurence Le Garcenaire, vous, donc, vous avez eu 3 enfants. Il n'y en a qu'une avec qui vous avez fait l'école à la maison. Oui. Ça vous a coûté plus cher ou pas?
Non, pas plus. Il faut enlever la cantine, les trajets. Après, on adapte au niveau des fournitures scolaires. On n'est pas obligé d'avoir 4 cahiers pour la même matière. Donc, non, c'est très simple. Hein. Il n'y a aucun problème.
Là-dessus, autour de la table, je ne sais pas, Nathalie Jousselin ou Béatrice, vous pouvez dire un mot. Ça ne vous a pas coûté plus cher au final, ou si vous avez sorti vos calculettes, c'est pas, comment dire, c'est pas très onéreux?
Non, pas plus qu'une école privée normale, voilà, comme dit, voilà, les cahiers, on n'est pas obligé d'en avoir plein. Après, on travaille beaucoup sur le tableau, voilà. Non, c'est pas plus cher. Non, faut pas que ça soit une contrainte pour faire l'école à la maison.
Voilà, en tout cas, c'est les mamans convaincues. Vous voyez pas beaucoup d'inconvénients à faire l'école à la maison. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose, peut-être, malgré tout? Est-ce que vous avez traversé, je sais pas, des difficultés à un moment? Est-ce que la dernière question qu'on pourrait se poser, c'est peut-être le regard des autres parents ou des autres mamans? Est-ce qu'on vous regarde comme des bêtes étranges? Et est-ce qu'on se dit, celle-là, elle veut trop materner ses enfants? Béatrice Rimaud, est-ce que vous avez eu ça?
Non, mais par rapport au point négatif, enfin non, pour répondre à votre question, moi mon entourage a été vraiment très sympa, bienveillant, admiratif, plus qu'il n'aurait dû. Donc c'était, voilà, je peux vraiment dire que j'étais très gâtée à ce niveau-là. Par contre, au niveau des points négatifs, il faut quand même reconnaître que parfois ça peut amener de la fatigue, mais du coup, ce qui est positif, c'est que ça oblige encore une fois la maman de se faire aider, pas hésiter à se faire aider. Et justement, solliciter son entourage. Voilà, il faut garder aussi l'humilité face à cette tâche. Et on ne peut pas être partout non plus. Donc se faire aider sur les côtés matériels, parce que ça va être quand même du temps pour être auprès de son enfant, pour l'instruire. Mais c'est un équilibre à trouver dans toute la vie. Donc ça permet peut-être de le trouver plus vite, du coup. Et puis accepter aussi que sa maison soit vivante. Donc elle n'est pas rangée, toujours nickel. Mais encore une fois, c'est aussi un point positif. Enfin, voilà. Il faut savoir ce qu'on veut, si on veut avoir une maison musée ou une maison vivante et gaie. Bon, bah, parfois c'est bazar et pas toujours très propre.
Thank you.
l'Église, Emmanuel Pella.
Voilà, donc ce matin, vous l'aurez compris, nous parlons de l'école à la maison, pourquoi, comment. Peut-être pour finir cette émission, Marie Vaugier, vous vouliez à nouveau parler des situations que vous rencontrez au cours Legendre. Vous disiez que donc pendant la pause là que la majorité des familles que vous accompagnez, en fait, c'est pas les parents qui font l'école à la maison. Et oui. Donc de fait, vous, c'est à vous au cours Legendre d'essayer de prendre ça en charge. Donc les enfants travaillent seuls chez eux. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces situations qui donc statistiquement sont, semble-t-il, les situations majoritaires?
Oui, c'est ça, les parents nous font confiance, nous intervenons chaque jour en nous relayant, on est une équipe, on se revoit régulièrement pour faire le point, pour aider l'enfant au mieux, et du coup, l'école n'a pas lieu à l'école, mais donc à la maison, donc on essaye nous de faire ce que mesdames ont dit, de leur donner des rituels, un cadre, de pouvoir les accompagner, et puis qu'ils se sentent en confiance, et qu'ils aient envie, que ça les booste, et qu'ils aient envie d'avancer.
Donc vous passez quoi, tous les jours en fait, c'est ça?
Oui, nous nous relayons, nous venons en place un emploi du temps comme à l'école, et on est écrit ça au tableau. Et
donc, puis, tous les matins, il y a quelqu'un du cours Legendre qui fait
l'après-midi, et puis on l'aide dans les devoirs.
C'est une fois par jour, deux fois par jour?
Tous les jours, il y a quelqu'un qui va venir. Oui, il a vraiment une situation de classe.
Et qui est, voilà, c'est ça, qui est à domicile.
Oui, c'est ça. Et les parents vont travailler, nous les appelons régulièrement, on fait le point, parfois on remonte le moral, on les aide dans des démarches administratives quand ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Un soutien, quoi, service.
Les parents font ce choix parce que les deux travaillent ou parce que...
Les deux travaillent ou
parfois, il faut qu'ils travaillent justement pour payer ses cours,
oui,
c'est ça?
Voilà, des familles monoparentales aussi, qui ne peuvent pas être partout, c'est normal. Et puis, au départ, il y en a aussi qui n'ont pas eu d'aide d'AVSI, enfin, ils n'ont pas eu facilement une aide.
Alors,
à l'école.
C'est quoi, c'est...
C'est une aide individuelle à l'école. Bon, il y a des dossiers à faire à la MDPH qui s'occupe du handicap. Et
MDPH, c'est la maison du handicap.
Voilà, c'est ça. Et parfois, ils préfèrent que tout se passe à la maison parce que même s'ils sont suivis par la MDPH, il n'y a pas cette lourdeur qui est évoquée dans ces trajets, ces démarches. Donc, il y a aussi cette liberté, ce confort. Moi, c'est ça, ce confort aussi.
Eh ben, merci beaucoup à toutes ces femmes d'être venues nous parler donc de l'école à la maison. Voilà, cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.